Salut à tous. Effectivement, nous vous retrouvons avec Marie-Ange Loukiana, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Bienvenue.
Merci infiniment, monsieur Jean.
Le portefeuille du travail vous connaît depuis l'an 2000.
Oui, oui, mais je suis quand même aussi une ancienne fonctionnaire du même ministère.
Ce mois de mai qui s'achève va commencer par la fête du travail, fête censée honorer les ouvriers, mais leur salaire en majorité ne les honore pas. Et d'autres manquent de l'emploi. Nous en parlerons en seconde partie de cette émission. Mais sachez que Madame Loukiana a été plébiscitée femme politique de l'année 2006 par le trophée Mwanamboka. Donc, occasion de plus pour nous d'épier un peu sa vie quotidienne et même politique. Madame la ministre est avant tout une mère.
Une mère de 50 ans, oui.
Et vous-même, vous avez eu sûrement une enfance au Bandundu.
Une enfance très, très heureuse. J'en suis même nostalgique. Mais il faut dire qu'à notre époque, dès l'âge de 5 ans, nos parents nous mettaient déjà dans des internats où on était encadrés par les religieuses de 50 ans.
Alors c'est là que vous avez fait toutes vos études primaires et secondaires ?
Primaires et secondaires, oui. Au niveau de la 5e et 6e des humanités, j'ai été transférée en maths physique chez les pères jésuites.
Saint-André, c'est à Kikwit ?
À Kikwit, oui, Kikwit Sacré-Cœur.
Et vous n'avez pas quitté Kikwit pour les écoles secondaires, non ?
Non, absolument pas, mais je suis allée au collège Saint-François-Xavier, maintenant appelé Sadistana, chez les pères jésuites, pour terminer mes humanités.
Ah, c'est pas Ndombo, il y a quand même une école très réputée, Ndombo.
Ndombo, c'était la section pédagogique et littéraire, et Saint-François-Xavier, les sections maths physique et biologie.
Alors, vous nous disiez que les parents étaient quand même bien assis, ils étaient bien salariés.
Absolument.
Le grand témoin.
Grand témoin qui reçoit aujourd'hui Marie-Ange Loukiana, Mufonkolo, ministre du Travail. Et après vos études, vous allez ailleurs, études secondaires, vous faites des études universitaires ailleurs ou au pays ?
Non, en Suisse, après la 6e, je me suis mariée. Je suis partie en Suisse où j'ai continué mes études supérieures.
Tout en étant mariée ?
Tout en étant étudiante mariée.
C'était facile ?
Non, pas du tout. C'était pas facile, mais il faut dire que en Europe, il y a quand même beaucoup de facilités pour soutenir les jeunes mères et les jeunes épouses aussi. J'étais à l'Institut universitaire d'études de développement et je crois que je suis restée à l'Institut jusqu'à devenir plusieurs fois mère, jusqu'à ce que je termine mes études.
Et vous êtes revenue au pays après ?
10 ans après, oui. Nous sommes revenus à Kisangani, où mon mari travaillait à l'UNIKIS, l'université de Kisangani.
Le professeur Loukiana.
Professeur Loukiana, et moi-même à la condition féminine et famille et aux affaires sociales.
Et après les affaires sociales, vous avez migré vers le ministère du Travail ?
Quelques années après, au niveau de chef de bureau, je suis allée au ministère du Travail où j'ai grimpé tous les échelons. Et j'ai pu occuper aussi pratiquement toutes les fonctions au niveau du cabinet, de la secrétaire particulière, en passant par le conseiller principal. Et je suis devenue vice-ministre. Mais avant tout, j'ai pu monter également de chef de bureau, chef de division et directeur.
Le grand témoin.
Alors, nous sommes en 1990, c'est fini avec l'interparti État, c'est le multipartisme, et là, la politique vous séduit.
Là, je pars à la Conférence nationale souveraine dans le cadre de la société civile, avec l'Association catholique internationale des services pour la jeunesse féminine, où j'étais membre depuis l'Europe. Mmh. Et j'avais eu la responsabilité de créer la branche nationale ici. Au niveau de la conférence nationale, ce qui me frappe le plus, c'est le nombre, la disproportionnalité entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes.
Il y a peu de femmes.
Plus de 2500 délégués et il n'y avait qu'une centaine de femmes.
Et vous commencez même à militer pour les droits de la femme.
J'avais quand même commencé depuis longtemps, depuis l'Europe. dans le cadre des associations droits des femmes, droits des déshérités. Mmh. Et naturellement, quand je suis rentrée dans mon pays, j'étais choquée par les conditions de vie de nos populations qui s'étaient terriblement détériorées. C'était autour des années qu'on appelait années de la rigueur. C'est ainsi que je me suis relancée dans le mouvement associatif pour voir parallèlement avec ma profession qu'est-ce que je pouvais apporter comme contribution pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations.
La politique, c'est pas facile. C'est elle qui vous fait connaître la prison en mars 1999.
Absolument, mais avant la prison, j'avais subi d'autres sévices parce que avec la Conférence nationale souveraine, on a trouvé que pour améliorer les conditions de vie de population, il faut lutter pour la démocratie, il faut lutter contre la dictature et dans cette lutte-là acharnée, on a connu des sévices, j'ai eu mon bras cassé, j'ai failli devenir manchot, on a le corps lacéré et toujours engagé, je me suis retrouvée en prison naturellement.
Alors, à cette époque-là, c'était une société civile qui évoluait presque à côté de l'UDPS, si je veux dire.
C'était une société civile membre des forces du changement. J'étais l'élu de la société civile à la coordination des 12 à l'époque du Premier ministre Tshisekedi, qui faisait la coordination des forces de changement radical.
Mais la prison, elle, c'est en 1999 sous Kabila Père, quand même.
Oui, là, c'était parce que au niveau de la société civile où j'étais vice-présidente de la campagne nationale pour la paix, nous voulions le dialogue entre tous les Congolais. Et c'est par rapport à cette option qu'il y a eu certainement une méprise et il y a eu une confusion. Nous nous sommes retrouvés en prison avec d'autres collègues de la société civile. Mais après qu'on ait rétabli la vérité, nous avons été relaxés.
Alors en politique, vous avez été dernièrement d'ailleurs coordinatrice adjointe de la plateforme qui a mené le président Joseph Kabila au pouvoir, l'AMP. Avant tout, vous étiez secrétaire général adjointe du PPRD et sénatrice au Parlement de transition et présidente du groupe parlementaire PPRD au Sénat. Rentrer aujourd'hui au ministère du Travail, c'est une récompense de cette forte activité politique.
Récompense, je ne sais pas si on peut parler en termes de récompense parce qu'il y a d'autres personnes qui ont milité fortement aussi, qui peut-être ne sont pas au gouvernement, mais je crois que c'est une volonté politique du chef de l'État et de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Peut-être avons-nous appris sur certaines demandes, il y avait quand même beaucoup d'échos dans le monde du travail qui souhaitaient que nous puissions revenir pour encore une fois prêter main forte à la réforme.
Nous allons quitter ce studio de Radio Okapi, comme d'habitude, direction chez Madame Marie-Ange Loukiana. Nous allons voir comment elle vit chez elle. Et vous le savez, c'est Alain Irung qui nous y amène et il est bien accueilli d'ailleurs par le professeur Loukiana, monsieur votre époux.
Bonjour, vous êtes là devant le professeur Loukiana. Vous êtes à notre résidence. C'est ici que nous vivons avec celle qu'on appelle Maman Marie-Ange Loukiana.
Pouvez-vous nous aider à visiter la maison?
Bien sûr.
Nous quittons le balcon et nous dirigeons dans la maison. Ici, on est où?
Au salon, le grand salon, la première photo. Vous voyez l'entrée de Madame au gouvernement avec Musée.
C'est une photo où elle salue Musée Kabila. Et quel effet ça vous a fait?
Nous étions émotionnés.
Je remarque que dans la maison, il y a beaucoup d'œuvres d'art, hein? Des tableaux en cuivre, des peintures. Madame aime beaucoup les œuvres d'art?
Elle aime beaucoup et elle-même, elle s'intéresse à cela. Ça, c'est la bénédiction totale pour notre mariage depuis qu'on est là, depuis 33 ans.
Pendant les 33 ans, quelle appréciation vous faites de votre femme, Madame la ministre?
Je me disais, est-ce que vous pouvez encore la marier ou qu'elle... J'ai dit oui.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez elle?
Professionnellement, j'aurais souhaité que mon épouse rentre, par exemple, à 18h, à la maison.
Nous sommes au salon. Est-ce que nous pouvons voir la cuisine, professeur?
Bien sûr.
Nous quittons le salon pour la cuisine. Merci. Bonjour madame, vous vous appelez comment?
Oui, bonjour.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici?
5 ans.
Qu'est-ce qu'elle aime manger?
Les fondou, les bitekpeku, les ngaï ngaï.
Madame la ministre vous paye bien, c'est certain?
Oui, elle nous paye bien. Dès que le mois se termine, elle nous paye directement, donc régulièrement.
Merci maman et bon travail.
Merci.
Professeur, nous allons quitter la cuisine. Vous nous proposez d'aller où maintenant?
Et ici, c'est le corridor. Pardon.
Donc, nous étions dans le corridor, nous sommes dans l'antichambre où on repasse, on sèche les habits. Donc, le bruit là, c'est le séchoir en fait. Exactement. Est-ce qu'il arrive que madame elle-même repasse quelque chose ou prépare ?
Repasser, oui, de temps en temps, si la dame qui s'occupe d'elle ne vient pas.
Prof, nous quittons l'antichambre où l'on repasse, nous revenons au balcon, nous sommes devant la parcelle. Le garage est juste à l'entrée gauche de la maison.
Okay.
Est-ce qu'il arrive que madame la ministre conduise elle-même?
Non, elle ne sait pas conduire. Mais ça aussi, je me fais le reproche. Au moment où elle voulait apprendre à conduire, je lui ai interdit, en fait, parce que peut-être ça ne s'apprêtait pas à ce qu'elle apprenne. Mais maintenant, je regrette à mes moi, parce que j'aurais souhaité qu'elle conduise.
Je vous remercie beaucoup pour la visite.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Alors, j'ai vu Madame la ministre bouger sa tête plusieurs fois. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu ou qu'est-ce qui vous plaisait?
Non, je crois qu'il faut accepter la vérité. Parce que j'étais surprise, je ne savais pas si ça s'était passé de cette manière-là. Je crois que quand on est un homme ou une femme d'État, on ne s'appartient plus. Notre population doit savoir qui sont ceux qui la gouvernent.
Alors, le trophée Mwanambuka vous a désigné il y a 2 semaines comme femme politique de l'an 2006. Pourquoi et pas quelqu'un d'autre? Nous retrouvons Sylvie Bongo pour savoir. Sylvie, vous nous écoutez?
Allô, oui.
C'est bien que vous soyez avec nous. Vous êtes membre du jury du trophée Mwanambuka. Sur quels critères avez-vous désigné Marie-Ange Loukiana comme politique de l'année?
Vous savez que l'année 2006 était une année électorale dans notre pays. Nous sommes partis d'un constat. Madame Loukiana est restée constante dans son combat politique et son foyer est resté stable. On a fait un travail de fourmi, on a fouillé. Il y a des femmes qui ont passé d'un parti politique à un autre. Et je crois que les responsabilités que Madame Loukiana a assumées l'année passée, elle a été tour à tour, je crois, secrétaire générale adjointe du PPRD, coordonnatrice adjointe de l'AMP. Elle a dirigé la campagne de son candidat, Joseph Kabila, deux reprises ici dans la ville de Kinshasa. Et vous savez que ce n'était pas facile. Et je crois qu'elle est parmi les rares femmes qui ont eu à assumer des fonctions aussi lourdes pendant la période électorale dans notre pays. Et c'est à ce titre-là que le trophée de l'excellence Mwanambuka lui a été décerné comme femme politique de l'année 2006 dans notre pays.
On a fait l'eau, hein. On a
fait Madame Loukiana sur les plateaux.
Oui, elle est là, vous voulez bien l'écouter?
En tout cas, je voudrais encore la féliciter et lui souhaiter bonne chance dans ce qu'elle fait. Et je persiste et je signe qu'elle est un modèle parmi les femmes politiques dans notre pays. Et merci beaucoup.
Merci beaucoup, Maman Sylvie. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Voilà, on n'a que de l'eau dans ce studio, sinon on pouvait bien arroser ce plébiscite, mais voyons, on peut tout de même arroser avec de la musique. Sylvie, si vous nous écoutez encore, proposez-nous un titre qui va faire plaisir aussi à Madame Loukiana.
Je pourrais bien proposer à Madame Loukiana Ngouni.
Ngouli, vous avez déjà écouté ça, madame, Ngouli?
Un peu, oui, merci beaucoup.
Ngouli, c'est de copie, non?
Je souhaite à elle et à son mari et que leur amour dure encore plus longtemps.
Merci.
On a depuis un bisou en live, là, je pense que ils peuvent continuer à cimenter leur amour. En tout.
Merci infiniment, merci. Merci beaucoup, beaucoup.
Alors, comme vous êtes pressée, Sylvie, on vous laisse partir et vous nous laissez donc avec Ofiolomide Ngouli.
Oui.
I'm going to go to the hospital.
Mon père, je crois que c'est une chanson merveilleuse, très très profonde. C'est un appel à l'amour, à la générosité, en fait, aux valeurs positives. Vous savez que dans notre pays, nous déplorons l'inversion des valeurs. Et je crois que cette chanson est toute une pédagogie.
Moi-même, je suis vraiment désolé de couper le morceau, mais on ne sait pas faire autrement. On va peut-être passer à autre chose, mais particulièrement, vous aimez la musique chrétienne. Hein?
Absolument.
Pourquoi?
Oh, je crois que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et quand il y a la musique chrétienne, c'est comme si on priait deux fois. Je crois qu'il y a beaucoup plus de dévotion avec la musique.
Le grand témoin.
Grand témoin qui s'entretient avec Madame Marie-Ange Loukiana, ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. En ce qui concerne l'actualité de ces derniers jours, en province orientale, la société textile de Kisangani, Sotexti, vient de mettre un terme au contrat des plus de 100 employés. Ses agents sont licenciés et 86 autres sont à terme du contrat d'ouvrage à durée déterminée. La direction générale de Sotexti justifie ces mesures par les difficultés de fonctionnement de cette entreprise, notamment le manque de matières premières. Mais les agents licenciés considèrent que la mesure qui les frappe est abusive. Les détails dans ce reportage de André Kitenge.
La société textile de Kisangani est confrontée actuellement aux sérieuses difficultés de fonctionnement. Selon le directeur général adjoint Glombert Loco, son entreprise tourne aujourd'hui à plus ou moins 5%. À l'origine, le manque de coton suite à l'impraticabilité des routes pour acheminer la matière première à Kisangani. La même source souligne qu'il ne s'agit pas d'un licenciement, mais plutôt de la fin du contrat par rapport au terme de souscription. La plupart des agents qui travaillent au service de filature, tissage et maintenance précisent restait sous un contrat à durée déterminée lié au stock du coton disponible à l'usine. Car, dit-il, faute de coton, ces travailleurs doivent immédiatement cesser de prester. Mais les agents licenciés affirment plutôt que la mauvaise politique d'importation des tissus serait à la base de leur licenciement. L'un d'eux, Justin Somisabo, explique.
Le vrai problème, si la Sotexti fait partie des gens comme ça, mince comme ça, c'est parce que la Sotexti avait réussi le financement du gouvernement. Au lieu d'utiliser ça pour amener le fer, amener le coton, ils importent les tissus pirates à l'Inde.
De son côté, l'employeur rejette carrément ses allégations. Toutefois, il reconnaît la signature par son entreprise d'un contrat programme avec le gouvernement qui l'autorise à importer des produits finis en attendant que la société reprenne ses activités normalement. Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
C'est vrai, madame, il y a plusieurs aspects, mais ici, nous nous focalisons sur l'aspect contrat de travail. Est-ce que vous connaissez d'abord le dossier?
Absolument, je suis au courant du dossier. Nous avons demandé à nos services de l'inspection générale du travail à Kisangani de mener une enquête exhaustive et de nous en faire rapport pour que nous puissions prendre les décisions qui s'imposent.
Oui, mais par exemple, les problèmes, les contentieux entre employeurs et employés arrivent toujours et souvent n'aboutissent pas. Quelles sont les solutions durables que vous proposez dans ces genres de situations?
D'abord, pour ce qui concerne le problème de Sotexki, nous pouvons rappeler les dispositions légales qui sont incontournables. Aujourd'hui, dans notre pays, le travail temporaire ne peut durer du moins quand on prend ce qu'on appelle les journaliers, ceux qui travaillent à la tâche, ne peut durer que 2 mois. Au-delà de 2 mois, on suppose que le travailleur doit jouir d'un contrat indéterminé. La deuxième considération légale, c'est de dire que licencier plus de 100 personnes relève d'une procédure légale. Et cette procédure légale, c'est le ministre du Travail qui donne l'autorisation des licenciements. Le ministre du Travail que je suis n'a pas donné l'autorisation à la Sotexki de licencier qui que ce soit. La troisième considération, c'est qu'on ne peut pas considérer les travailleurs comme des souples douleurs. Peut-être qu'on gère mal, peut-être qu'il y a des difficultés économiques, l'entreprise récupère tout son patrimoine et met les travailleurs à la porte de n'importe quelle manière, sans droit et sans foi. Et cela, nous pensons que pour ce mois de mai, nous venions encore de faire publier toute une circulaire pour qu'on puisse absolument s'en tenir aux prescrits légaux. Un pays qui ne respecte pas la loi n'est pas un pays de droit. Or, nous savons que tout notre peuple aspire à un état de droit. Pour ce qui concerne les dispositions à prendre, c'est vrai, souvent les conflits de travail n'aboutissent pas parce que les mesures d'encadrement de ces conflits de travail sont faibles. C'est ainsi que depuis la réforme du Code du travail, il a été réhabilité l'organisation des tribunaux de travail.
Est-ce que ça fonctionne, ces tribunaux?
Malheureusement, à notre retour au ministère, nous avons constaté que depuis 2002, que le chef de l'État a réhabilité les tribunaux du travail, ces tribunaux ne fonctionnent pas encore. Donc, le Premier ministre vient de demander depuis le 1er mai que nous puissions accélérer la mise en place des tribunaux de travail qui constituent des mécanismes adéquats pour la résolution des conflits de travail.
Et ça peut arriver quand?
Le plus tôt possible. Nous allons bientôt en Forum national de l'emploi. C'est toute une rencontre de dialogue social de tous les partenaires sociaux. Et de là, nous allons dégager un consensus sur la manière de régler les problèmes majeurs du monde du travail. Et ce consensus va lier tous les partenaires, autant sociaux, gouvernementaux que d'appui au développement. Et à partir de là, nous aurons un agenda commun dans l'accélération.
Et le forum commence quand, madame?
Le forum commence au mois de juin. Maintenant, nous sommes dans les étapes préparatoires. On a lancé les consultations nationales. Nous venions de tenir les états généraux des syndicats. Nous sommes dans toujours les travaux, les consultations et même les consultations des agences d'appui en développement comme les agences de l'ONU. Nous avons la consultation du Parlement qui va aboutir par la tenue du forum qui est le premier forum sur l'emploi que notre pays va connaître depuis l'indépendance.
Le grand témoin.
On va donner aussi l'occasion à Madame Marie-Ange Lucana de répondre à vos questions.
Je m'appelle Monsieur Jean-Pierre Mukonga. Ma question est simple. En tant que ministre du Travail, quelle philosophie est là pour les travailleurs congolais? Parce que si nous regardons, la plupart des travailleurs congolais sont sous-payés. En est-il fier de son poste ou il a accepté ce poste parce qu'on lui a offert ça ou c'est juste pour ses intérêts en tant que ministre? Et quelle est sa vision et son plan d'action pour améliorer les salaires d'un Congolais?
Tumba Dikebele, fonctionnaire de l'État. Qu'est-ce que le gouvernement actuel a prévu pour l'amélioration des conditions de vie du travailleur congolais?
Voilà, ce sont les mêmes questions, les conditions de vie des travailleurs. Qu'est-ce que vous allez faire, madame?
Absolument, nous avons dans notre plan d'action la question vitale de réévaluation du salaire des travailleurs congolais. Et non seulement le salaire, mais également les conditions de travail en général. j'appelle cela fléau parce que cela a beaucoup de répercussions négatives sur même le développement du pays. Notre volonté est de réhabiliter, de réévaluer la rémunération parce que c'est là également la clé de la bonne production. Nous ne sommes pas venus comme ministre du Travail au gouvernement par aventure ou par des intérêts égoïstes, loin de là. Nous ne pensons pas qu'au niveau du gouvernement, le meilleur poste serait aujourd'hui dans notre pays d'être ministre du Travail. Nous sommes venus par conviction. Nous appartenons au monde du travail depuis des décennies et nous croyons que tout le monde doit conjuguer les efforts pour que le monde du travail puisse améliorer son image. Et l'une des facettes d'amélioration de l'image du monde du travail, c'est la qualité de l'organisation du travail en faveur du travailleur.
Nous allons prendre cette fois-ci une question de Lubumbashi, Lubumbashi et Kinshasa.
Constance Tundwa, j'habite Lubumbashi. Il y a un problème ici au Katanga. Le gouverneur du Katanga exige à toutes les entreprises privées de ne plus utiliser les journaliers, de les engager tous. Alors, que prévoit le droit du travail à ce sujet?
J'habite Lubumbashi. Il se pose un problème à Lubumbashi entre les employeurs et les employés dans les entreprises privées. Dernièrement, le gouverneur du Katanga avait exigé à toutes les entreprises privées de payer un salaire d'au moins 100 dollars aux travailleurs. Cela peut-il se faire et cette décision a-t-elle un fondement juridique sur les plans de droit du travail?
Je m'appelle Nzike Joseph Mushingelete. Ma question est celle-ci. Je demande à la maman ministre d'essayer un peu de revoir la situation des étrangers qui viennent ici. Ils investissent ici, bien sûr, mais ils n'arrivent pas à engager les Congolais. Ils travaillent toujours comme journaliers. Et qu'est-ce que vous proposez sur ça et pourquoi ça? Est-ce que vous ne pouvez pas revoir cette situation? En plus, ça date de longtemps.
Alors, nous allons commencer par la question de Lubumbashi, les deux questions de Lubumbashi. Vous avez parlé vous-même d'une référence salariale un peu. Vous comptiez toucher sur ce point-là. Les 100 dollars qu'on exige, et il demande est-ce que ça a une base juridique?
Je pense que globalement, quand on regarde maintenant la fixation juridique du salaire dans notre pays, on peut parler de 100 dollars quand on considère l'enveloppe globale. Parce que dans notre pays, la loi stipule que le SMIG, qui est le salaire minimum de base, en dessous duquel personne ne peut être rémunéré, est de 1 dollar par jour. Par semaine. Je sais que la loi stipule qu'on ne peut pas fixer le salaire en monnaie étrangère, c'est-à-dire qu'on traduit c'est 1 dollar de consensus de partenaires sociaux en francs. Mais ça, c'est la base. Au-dessus de cette base, on ajoute l'indemnité de logement, l'indemnité de transport, les autres avantages que l'employeur dans la convention collective concède aux travailleurs pour le mettre dans de bonnes conditions de travail. Et quand nous regardons aujourd'hui le transport, le logement, les allocations familiales et autres avantages, plus la base du SMIC dont le minimum est de 1 dollar par jour de travail, on peut aisément arriver à 100 dollars. D'autant plus que ce SMIC, c'est pour vraiment le manœuvre qui vient de commencer son travail aujourd'hui, est assorti au SMIC la tension salariale de 1 à 10. Donc plus vous avez l'ancienneté dans l'emploi, vous avez le grade dans l'emploi, cela augmente, cela est quintuplé jusqu'à 10 au niveau.
Mais aujourd'hui, madame, on sait qu'il y a des travailleurs des entreprises publiques qui ne sont pas payés au taux qu'il y a sur le marché. Mais est-ce que vous-même, vous ne considérez pas que le 1 dollar, c'est peu et qu'il faut revoir le SMIC?
Faut-il encore déjà qu'on paye déjà le 1 dollar? Or, nous savons aussi que beaucoup d'employeurs ne respectent pas l'équivalence de ce 1 dollar qui était l'objet de consensus entre les travailleurs et les employeurs depuis 2002.
Alors, beaucoup d'employeurs ne respectent pas ça. On a entendu la question de Kinshasa tout à l'heure qui nous dit qu'il y a des expatriés qui ne payent pas très bien les Congolais ou qui ne les emploient que comme journaliers. Votre réponse?
Il faut respecter la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Et nous avons donné un délai jusqu'à la fin du mois de mai pour que tous les employeurs, tous les travailleurs se mettent en ordre. Parce que chaque catégorie a des droits, mais a également des obligations. Après le mois de mai, nous allons faire des descentes systématiques et tout le monde va faire des descentes, y compris le ministre, pour qu'on puisse respecter la loi. Parce que si on reste dans l'anarchie, naturellement, tout le monde perd.
Nous allons prendre cette fois-ci une question de Mbandaka.
Je suis Jean-Léon Balonga. Ma préoccupation est celle-ci. Les universités et instituts supérieurs du pays continuent à former des milliers de jeunes qui, malheureusement, ne trouvent pas d'emploi à la fin de leurs études. Y a-t-il
une stratégie au ministère du Travail pour remédier à cette situation?
Alors, Madame la Ministre, combien d'emplois allez-vous occasionner durant les 5 ans?
Cette question de l'emploi des jeunes est une question très, très épineuse au niveau du pays, mais également au niveau de l'Organisation internationale du travail. Ensemble avec eux, nous nous sommes inscrits dans la politique du YEN, qui est un programme spécial pour l'emploi des jeunes. Et dans notre pays, il y a toute une commission là-dessus que nous comptons accélérer et sortir des modules des projets pilotes d'emploi pour les jeunes. Le gouvernement est déterminé à créer des milliers d'emplois pour jeunes également. Et nous allons vous donner le nombre parce qu'il ne faut pas aller dans la démagogie. Nous venions de parler du Forum national sur l'emploi qui est une option. L'emploi, il faut le gérer délicatement, sinon l'emploi fuit. Et nous allons y aller par consensus et ce consensus sera dégagé au niveau du Forum national sur l'emploi. Les chiffres exacts vous seront communiqués en ce moment-là.
Mais il y a déjà un office qui se charge de l'emploi. Est-ce que vous lui donnez les moyens pour fonctionner et pour trouver de l'emploi pour les jeunes?
Effectivement, l'Office national pour l'emploi a été créé lors de mon premier mandat. Jusque-là, dans notre pays, nous étions le dernier pays membre de l'Organisation internationale du travail, qui est une agence de l'ONU, qui n'avait pas d'Office national de l'emploi. Nous avons fait le checking de cette structure. Les capacités sont encore très, très insuffisantes. C'est pour cela que l'un, quand nous regardons les axes de notre programme, parmi eux, on stipule qu'il faut renforcer les capacités des structures qui s'occupent de la promotion de l'emploi dans l'ONEM.
Pour clore cet entretien, est-ce que vous accepteriez notre invitation prochainement, dans 2 ans, pour venir nous dire les résultats obtenus?
Il plaît à Dieu et à mes supérieurs, mes autorités, de me laisser encore au ministère du Travail, je reviendrai volontiers.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Toute l'équipe de Grand Témoin vous remercie et vous laisse sous le rythme de Okapi Weekend Matin.